Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Paul Ouzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine, Chronique pour la paix. Chers auditeurs, aujourd'hui l'actualité c'est l'Iran. Plus exactement, le retrait des États-Unis de l'accord signé entre les grandes puissances et la République islamique. C'est le président Trump personnellement qui a suscité cette initiative. Rappelons que cet accord levait l'embargo économique mondial sur ce pays en échange de l'arrêt de son programme nucléaire militaire. Que deviendra le JCPOA, ce qui signifie en anglais Joint Comprehensive Plan of Action? Pour l'instant, on ne le sait pas, mais déjà les hostilités sont déclarées en Syrie, comme vous le savez, entre Israël et l'Iran. Les bombardements et les accrochages s'intensifient dans le nord du pays. Pour y voir un peu plus clair, nous avons invité Marc Lefebvre. Marc est physicien. Il a enseigné au Technion de Haïfa. Il a travaillé dans le domaine nucléaire en France et en Israël. Marc Lefebvre est également le porte-parole de la paix maintenant en France. Est-ce que Marc Lefebvre est là?
Je suis là.
Bonjour Marc Lefebvre.
Bonjour.
Alors, je vais vous poser une première question. Une première question pour éviter les malentendus et préciser les choses sur le JCPOA. Cet accord est-il avant tout destiné à aider l'Iran à revenir dans le rang des nations civilisées ou alors à éviter des conflits locaux? Ou sert-il essentiellement à endiguer la prolifération nucléaire au Moyen-Orient et dans le monde? En bref, a-t-il été conçu localement ou d'une manière beaucoup plus générale pour la fin de la prolifération nucléaire? Qu'est-ce que vous en pensez?
La réponse est positive aux deux questions. C'est à la fois un accord pour permettre aux forces les plus modérées, les plus pragmatiques à l'intérieur de l'Iran de faire en sorte que ce pays s'intègre dans les échanges mondiaux, et d'autre part pour arriver à contrôler et justement arrêter la fabrication de matières fissiles qui peuvent servir à des armes nucléaires. Donc cet accord a plusieurs objectifs, et cet accord, il faut le dire, a été respecté par les Iraniens, malgré le bluff des déclarations de Benjamin Netanyahou qui ne prouve rien par rapport à ces assertions comme quoi les Iraniens continueraient leur programme militaire, et malgré les mensonges de Donald Trump, parce que quand vous prenez la peine d'écouter le discours dans lequel il justifie non pas sa sortie de l'accord international, mais la violation par les États-Unis de cet accord international validé par l'Organisation des Nations Unies, donc dans ce discours, Trump ne fait que des mensonges. Il déclare que l'Iran continue la production de matières fissiles et à enrichir l'uranium, c'est faux. Il prétend qu'il n'y a pas de contrôle efficace par rapport au respect de cet accord, c'est faux.
Marc Lefebvre.
Aujourd'hui même.
Oui, mais attendez, juste une seconde. Je vous ai souvent entendu défendre cet accord. Vous disiez, il ne faut pas faire confiance aux ayatollahs. Et c'est pourquoi il faut signer le JCPOA. Donc je vois que vous êtes toujours de cet avis. Vous pensez que rien du côté des Iraniens n'a été fait pour ne pas respecter les accords, qu'ils ont été corrects.
Aujourd'hui encore, le président Rouhani a déclaré à la chancelière Merkel qu'il voulait arrêter les tensions et faire en sorte qu'on arrête l'escalade militaire qu'il y a en Syrie. Aujourd'hui, le secrétariat d'État américain demande que les contrôles internationaux dans le cadre de cet accord international continuent. Vous avez un président américain et un premier ministre israélien qui dit que ces contrôles ne servent à rien, et le secrétariat d'État américain qui demande que ces contrôles continuent. Alors si vous arrivez à comprendre quelque chose dans ces contradictions, vous serez très fort. Moi, je n'arrive pas.
Mais Marc Lefebvre, on a vu Benjamin Netanyahou nous présenter de nouvelles informations. Il les a présentées à la presse en général. Il les a présentées aussi, en tout cas, il les a passées aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU. On sait que les services de renseignement israéliens ont exfiltré d'Iran une énorme quantité de documents et vous pensez que ça ne prouve rien du tout. Vous pensez
ces
que ces
documents...
documents
ne prouvent rien. Ces documents ne prouvent rien.
Il n'y a rien à signaler sur l'enrichissement d'uranium.
Ces documents ne prouvent rien. Ils sont datés de 2003 à 2009. L'Iran s'est engagé à partir de 2009 à arrêter son programme militaire. Rien dans ces documents ne prouve que l'Iran a continué ses programmes militaires. Tous les experts de sécurité, aussi bien israéliens qu'américains, le reconnaissent. Il n'y a aucune preuve de violation des accords de 2015 dans ces documents présentés dans des classeurs achetés chez Office Depot à Tel Aviv.
Mais pourtant, il y a des hésitations du côté des membres du Conseil de sécurité. Vous savez que Benjamin...
Il est clair que l'accord de 2015 était un accord sur la limitation des recherches et de la production de matières fissiles nucléaires. Que l'accord de 2015 ne comprenait aucun chapitre concernant le développement des missiles balistiques. Il y a un consensus international pour essayer de faire en sorte qu'on arrive aussi à limiter les recherches militaires et les développements de missiles balistiques de l'Iran. Ces efforts ne porteront leurs fruits que par une concertation mondiale avec la Chine, la Russie, les pays européens, et pas par des démonstrations de testostérone de M. Netanyahou ou de M. Trump. À titre d'exemple et à titre de comparaison, on met en avant un succès soi-disant de Donald Trump par rapport à la Corée du Nord. Je mets fortement en doute ce soi-disant succès. C'est la troisième fois en 15 ans que la Corée du Nord prétend arrêter son programme nucléaire. Qu'est-ce qui prouve la sincérité de Kim Il-sung? Qu'est-ce qui prouve sa sincérité par rapport aux Iraniens? Quels sont les éléments, quelles sont les preuves que la Corée du Nord va effectivement arrêter son programme nucléaire?
Vous voulez dire que rien...
La seule chose qu'on sait, c'est que le site expérimental d'explosion nucléaire de Corée du Nord a explosé et n'est plus opérationnel. C'est la seule chose de sûre. Alors quand on met en comparaison les soi-disant succès de Donald Trump en Corée du Nord par rapport à l'Iran, on trompe les auditeurs.
Alors, est-ce que vous sous-entendez que pour avoir une certitude sur l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium dans le but d'obtenir l'énergie nucléaire, ce qu'il faut, c'est des accords qui permettent de surveiller l'évolution des travaux ou l'évolution de l'empêchement de développer l'uranium. Et c'est pour ça que vous mettez en parallèle la Corée du Nord et l'Iran. Sous-entendu, en Iran, on peut vérifier parce qu'il y a des contrôles.
En Corée du Nord, il n'y a pas de contrôle. Quand il y a eu des contrôles, il y a 15 ans, deux inspecteurs de l'AIEA sont morts d'accidents inexpliqués pendant leurs opérations de contrôle dans un réacteur de recherche de Corée du Nord. Les contrôles actuellement sur le programme nucléaire iranien sont effectifs. Tous les rapports des agences de sécurité et les rapports de l'AIEA montrent que l'Iran respecte ses accords. La meilleure façon, quand on a des soupçons, et les soupçons sont légitimes, il est tout à fait compréhensible de ne pas avoir entièrement confiance dans l'Iran. La meilleure façon, quand on a des soupçons par rapport à un pays, c'est d'avoir un cadre qui permet de contrôler ce pays de l'intérieur. Quand vous fermez les portes, quand vous fermez les frontières et que vous boycottez, vous n'avez plus aucun contrôle. Actuellement, ce qu'il se passe sur le terrain même en Syrie, c'est une certaine restriction de la part des Iraniens qui ont tiré quelques roquettes avec des lance-roquettes tellement visibles qu'ils ont été annihilés tout de suite, qui ont lancé quelques roquettes sur les positions militaires israéliennes sur le Golan. La preuve d'intention belliciste véritable de l'Iran serait que le Hezbollah commence à lancer ses missiles. Ce n'est pas le cas. Donc d'un côté, vous avez un pays, l'Iran, qui quelque part montre un certain sang-froid, et de l'autre côté, vous avez M. Trump avec ses conseillers qui étaient les mêmes qui ont conseillé George Bush pour déclencher la guerre en Irak.
Oui.
Et vous avez les rodomontades du Premier ministre Netanyahou qui pousse à un scénario exactement comme celui qui a permis le déclenchement de la guerre contre Saddam Hussein en Irak, dont nous connaissons les résultats.
Je vais vous arrêter, Marc. Je vais vous arrêter, Marc, parce qu'on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Je pense qu'on aura encore à reparler de ça, hein, de cet accord avec l'Iran, parce qu'on va voir comment les choses évoluent, on va voir comment ça va pouvoir se faire. En tout cas, je vous remercie beaucoup et on se dit une prochaine fois pour continuer cette conversation.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Avant de nous séparer, chers auditeurs, je vous signale que lundi 28 avril à 20h, au Cercle Bernard Azazar, les amis de Givat Raviva, France, organisent une soirée conviviale au profit de ce centre qui œuvre depuis plusieurs dizaines d'années en faveur d'une société solidaire entre citoyens juifs et arabes en Israël. Au programme de cette soirée, de la musique et le pot de l'amitié, le CBL et 10 rue Saint-Claude à Paris 3e. Toutes les précisions sur le site www.lapaixmaintenant.org. Je vous souhaite Shabbat Shalom, chers auditeurs, et on se retrouve pour un autre rendez-vous dans 15 jours. C'était Paul Ouzi Meyerson à l'antenne pour Chronique de la Paix.